RMC.
Les gens doivent arrêter d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas l'annonce classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter.
Excuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'After Foot. Jean-Christophe Drouet.
Bonsoir à tous, si vous venez de nous rejoindre, nous sommes ensemble depuis 20h, mais l'after débute maintenant pour résumer la rencontre des Bleuets. Vous le savez, l'after, vous pouvez nous suivre sur RMC, mais également en simultané à la télévision sur RMC Sport News. Avec ce soir, l'after jusqu'à minuit, évidemment, comme d'habitude, Jonathan McCarty. Salut Jonathan.
Salut mon JC.
Tu vas bien?
Toujours.
Ludovic Obraniak te fait face.
Ça va, les amis.
J'espère que le duel va être intense comme il y a une semaine quand
non,
on était
non, tous les trois. On est complémentaires avec Jonathan, tu sais, on s'affronte jamais.
Ouais.
Non, c'est vrai.
Mais ça avait un
pourquoi
petit peu
s'affronter.
Bah, ça avait un petit peu chauffé, ça m'avait plu. Voilà.
C'est mon Ludo.
Non, pas vraiment, mais bon, on peut c'est le refaire hein, sans problème. Hein.
Si. Sur Adil Rami, tout ça. On n'en parlera pas ce soir, d'ailleurs.
Ça fait un an qu'on fait l'after ensemble, on s'est jamais vraiment pris le bec en plus.
Non, mais moi, j'aime bien, quoi, là, quand il y a des.
Pourquoi chercher le buzz et le clash permanent mais ça, c'est le spectaclisme de la télé du 21e siècle,
un
2019,
débat
c'est insupportable.
Spectaclisme, je connaissais pas ce mot. Ça existe peut-être. Hein.
La spectaclisation de la société, c'est un concept sociologique très intéressant que je pourrais développer, mais ce n'est pas le lieu ni l'occasion.
Non, je suis bien d'accord, c'est pas le lieu.
Crois-moi.
Parce que ce mot comporte déjà beaucoup trop de syllabes.
Spectaclisation ?
Ah oui, beaucoup trop.
Pas du tout.
Si.
Mais tu sais que c'est extrêmement intéressant, on pourrait en parler, mais bon.
C'est vrai, et ben, je te propose d'en parler à minuit et quart pendant la publicité. Merci beaucoup, Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, d'être avec nous ce soir. Au sommaire, je le disais dans quelques instants, débrief de France-Croatie avec les réactions des Bleus. Les Bleus qui se sont imposés donc 1-0 à 23h30, J-2 avant France-Brésil, 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. On prendra des nouvelles de notre équipe de France. Il y avait un point presse aujourd'hui, et puis à 23h40. L'actualité du jour dominée par cette retraite de Fernando Torres. Je sais que tu as envie d'en parler, Jonathan, et puis je vous donnerai toutes les dernières informations. Mercato, appelez-nous au 32-16 pour participer à l'émission, le hashtag RMC Live ou l'application RMC Direct Studio, le compte Facebook aussi de l'émission. C'est parti pour l'after. Il y a un live actuellement, c'est l'autre événement du soir sur RMC, c'est le début de la CAN 2019. L'Égypte, le pays hôte qui reçoit le Zimbabwe et Clément Brossard.
Et c'est reparti depuis un peu plus d'une minute. L'Égypte qui mène donc 1-0 grâce à Mahmoud Trezeguet à la 41e minute. L'Égypte qui a globalement dominé cette première période. Mahmoud Trezeguet qui était peu en vue lors de cette première période et depuis le début de la rencontre, et bien a décroché une frappe enroulée du pied droit dans le petit filet du gardien zimbabwéen qui n'a pu rien faire alors que là Mohamed Salah approche de la surface de réparation. Très en vue également Mohamed Salah qu'on recherche beaucoup du côté des Pharaons et c'est normal. Et récupération des guerriers qui évoluent en contre depuis le début de la partie. Ça risque d'être compliqué pour le Zimbabwe, mais les hommes en jaune ce soir qui se battent bien face à les locaux, les Pharaons, qui pour l'instant mènent donc 1-0. 47e minute de jeu, attention peut-être à l'occasion du Zimbabwe à l'instant. Il y a finalement une position de hors-jeu pour Niasha Mushekwi. 47e minute de jeu, 1-0 pour l'Égypte face aux Zimbabwe.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce match donne envie de regarder la CAN. Oui. Cette ambiance, cette ferveur.
L'ambiance est magnifique. Ce stade, le stade international du Caire, c'est un stade où il y a toujours une ambiance qui est assez folle. C'est le stade d'Al Ahly. Et il y a toujours une ferveur autour du foot qui est assez forte. C'est d'ailleurs
6 heures avant le coup d'envoi, ce stade était plein. Quoi.
Ben, en fait, le foot, ça, l'Égypte, contrairement à la France, c'est un vrai pays de foot, on peut le dire. Ou par exemple, les supporters égyptiens ont un vrai impact socio-politique dans la vie de la ville du Caire. On va rappeler que les ultras qui sont dans ce stade-là d'Al Ahly, c'est eux qui sont un petit peu à la base de la révolution, enfin du printemps arabe en 2011. C'est vraiment, en fait, c'est un vrai pays de foot, l'Égypte.
Oui, mais tu m'excuseras quand même de t'apporter la contradiction, mais l'Égypte n'a jamais été championne d'Europe.
Donc, si tu veux, mais c'est un pays qui a gagné je ne sais combien de CAN, c'est un pays dont les clubs ont gagné je ne sais combien de Ligue des Champions africaines. Et oui, je plonge. Comme quand tu me parles de spectacularisation, je t'invite à relire cet essai de Guy Debord, la société du spectacle, pour ne pas le citer. Parce qu'il y a des gens qui disent oui, spectacularisation, ça n'existe pas. Si, ça existe. Je t'invite, lisez ce livre, la société du spectacle.
T'es parti là-dessus. Attention, oui. C'est, la dernière fois c'était Adil Rami Tamarot, maintenant ce sera la spectacularisation.
La société du spectacle de Guy Debord.
Très bien.
Très, très bonne lecture, très saine lecture.
Pour apporter une précision, Jean-Christophe, puisque je vous ai écouté parler de l'Égypte, il y a 7.
Non, ça vous intéresse pas?
Oui, Clément.
Il y a 7 victoires donc en CAN pour l'Égypte jusqu'ici. Une seule défaite sur les 25 derniers matchs de CAN. C'était à finale 2017. Une défaite contre le Cameroun donc. Et je le disais tout à l'heure, invaincu depuis 17 matchs à la maison. L'Égypte qui est une référence en Afrique et dans le monde entier. Un peu décevant pendant la Coupe du Monde, certes. Oui. Attention à cette occasion d'ailleurs. Égyptienne encore avec cette frappe de Mahmoud Trezeguet qui a frôlé la cage de Edmond Sibanda. Tout ça pour dire que les 75 000 personnes présentes au Caire ce soir sont venues pour voir une équipe favorite évidemment dans son édition.
Mais tu m'enlèveras pas l'idée que l'Égypte n'a jamais été championne.
Oui, mais de toute manière, l'Égypte, il y a un phénomène que j'ai jamais su, mais qu'on n'a jamais su expliquer. C'est une équipe qui est très forte dans les compétitions continentales.
Exactement.
Mais qui a toujours été incapable de se qualifier pour la Coupe du Monde ou qui a été pas vraiment forte lorsqu'elle a réussi à se qualifier.
Pas beaucoup de chance sur la dernière Coupe du Monde avec l'absence de Mohamed Salah évidemment, mais c'est vrai que on fait souvent cette réflexion quand on parle des pharaons et on va voir en tout cas si les pharaons dominent une nouvelle fois cette CAN.
C'est le meilleur championnat continental, le championnat égyptien, on peut le dire hein, en termes de domination dans la Ligue des Champions africaine. Et puis le joueur qui vient de marquer là, qui s'appelle Trezeguet, bah, du fait de sa ressemblance, mais qui s'appelle pas du tout Trezeguet en fait, qui s'appelle Hassan, qui joue en Turquie. C'est vraiment un bon petit joueur, le milieu offensif là, il a du ballon quand même.
Alors vous savez, RMC dans le stade hein, avec Timothée Mémon, notre envoyé spécial.
Il est au resto Timothée, surtout je l'ai vu sur Instagram, il fait un peu de tourisme en Égypte, il est bien là
hein. C'est vrai, on se demandera d'ailleurs si il était au resto pendant le match. Non, évidemment il est au stade et on lui passera un petit coup de fil au coup de sifflet final. Il reste à peu près 40 minutes maintenant. Passons à notre équipe de France, aux Bleuets, qui ont disputé leur deuxième match dans cet Euro ce soir face à la Croatie. Deuxième victoire pour les hommes de Sylvain Ripoll. Du coup, les Bleuets sont en tête de ce groupe avec 6 points, à égalité de points avec la Roumanie. C'est la surprise de la soirée, qui s'est imposée 4-2 face au tenant du titre, l'Angleterre. L'Angleterre est donc éliminée. Alors, je ne vous cache pas, messieurs, que je vous attends sur ce débat. Nous avons pas mal souffert dans le RMC Football Show à commenter cette rencontre entre la France et la Croatie, but de Moussa Dembélé, qui a d'ailleurs été élu homme du match, vous l'avez entendu dans le RMC Football Show il y a quelques instants, première réaction au micro de Loïc Tanzi. Quel est votre regard sur ce match? Et mettez-y de la pêche s'il vous plaît, parce que moi j'ai perdu pas ma voix mais mon envie.
Non, mon JC, on va pas se mentir, ça a pas été fameux ce match, comme il n'avait pas été quelques semaines avant quelques jours avant contre l'Angleterre. Cette équipe, j'écoutais Roland quelques minutes auparavant, qui disait que justement sur le papier, cette équipe était particulièrement séduisante, puisque ces garçons jouent dans des championnats, soit dans notre championnat, et ils ont acquis une certaine maturité, une certaine expérience, ou alors dans des championnats étrangers, dans des bonnes équipes étrangères. C'est vrai que ça se ressent pas, la qualité que l'on peut voir sur le papier, elle se ressent pas sur le terrain clairement. On sent pas au niveau homogénéité, au niveau moi ce qui m'a marqué surtout, c'est au niveau de la récupération du ballon. On est très mauvais dans la récupération du ballon. Après, on a joué contre une équipe croate qui a plutôt fermé le jeu. Alors oui, on a des joueurs techniques qui sont capables de garder le ballon, de jouer latéralement. Après, on manque au niveau de l'animation offensive, il manque des combinaisons, il manque des affinités. Je trouve aussi, j'écoutais Sarri aujourd'hui, et du coup, ça m'a fait repenser aussi
à
Johan Cruyff, en disant ce qui est plus difficile dans le football, c'est de jouer en une touche de balle et d'avoir vu avant. Or, voilà, ces garçons, ils ont énormément de qualité, mais ils grignotent hein, la balle.
Ils se regardent jouer, c'est ça ?
Non, ils se regardent pas jouer, mais ils ont tendance à grignoter. Une touche, deux touches, trois touches, quatre touches. Et justement, quand tu joues contre une équipe qui a décidé de fermer un peu le jeu, il faut de la spontanéité, il faut pouvoir surprendre. Il y a trop de... C'est trop laxiste dans les passes. Il faut plus d'intensité et il faut plus surtout de jeu en une touche de balle, deux touches de balle pour pouvoir de combinaison dans les courses. Parce qu'à un moment donné, je sais pas, vers la 70e minute, je me rappelle une action où Ikoné, il fait une différence, il arrive, il part de la droite et il repique dans l'axe. Il y a un super appel à faire dans le dos, ils font tous le même appel à gauche. Donc tu vois, c'est pas coordonné, ça c'est le rôle de l'entraîneur aussi.
Moi j'ai une question à vous poser. Franchement, dans cette équipe, quand on regarde les prestations et les talents individuels des joueurs, je vois qu'il y a des joueurs. Ben, en défense centrale, on est pas mal. Upamecano, Konaté, c'est quand même deux bons joueurs. Je pense que Upamecano, notamment un avenir en bleu.
Konaté n'a pas été à son avantage. Ouais,
mais Upamecano, je pense.
Upamecano, c'est très bon.
Oussama War, je pense qu'avec un peu de bouteille, un peu de muscle en plus, en partant à l'étranger, il aura un avenir en équipe de France. Mais très franchement, on se dit, allez, depuis des semaines, ouais, cette équipe de France espoir, on a des super joueurs. Mais je suis désolé, c'est des joueurs qui sont amenés à devenir des joueurs moyens. je vois pas en fait pourquoi ces joueurs, on est en train de péter des câbles dessus.
Je suis désolé.
Enfin, je vais pas te faire
plaisir. Tu nous poses une question, mais Bamba
et Ikoné. Je vois pas, mais c'est pas le facteur X du LOSC. Ils ont fait une très belle saison au LOSC, mais sans Pépé, ça aurait pas fait grand chose. Quand je vois Moussa Dembélé, que j'aime beaucoup, hein, parce que j'adore les Celtics, donc je l'ai beaucoup aimé, ou même Encham, que je trouve très intéressant, mais c'est pas amené à devenir des joueurs majeurs.
Je te trompe, Jonathan, sur Ikoné, il fait une très belle saison à Lille, il fait un début de coupe, il fait un début de Coupe du Monde plutôt correct.
Mais est-ce que ça sera, un très bon joueur?
Mais j'en sais rien, mais en tout cas, à 21 ans, il est en pleine progression, il a été à Montpellier, il arrive au LOSC, il est tombé avec Christophe Galtier qui a su exploiter ses qualités. Moi, c'est un garçon qui est en pleine progression. Je vois pas pourquoi.
Progression, je suis d'accord.
En fait, tu es en train de nous dire que cette équipe d'espoir est composée de joueurs moyens de Ligue 1, mais qui ne vont pas forcément franchir le palier, ni même peut-être aller en A. Par exemple, qui tu vois aller en A?
Upamecano.
Ok.
Pour son profil. Oussama Aouar, évidemment.
Évidemment.
Oussama Aouar, oui.
Titulaire, on en reparlera dans quelques instants.
Non, titulaire, je ne sais pas, mais Oussama Aouar, oui.
Non titulaire,
ouais,
ce soir.
Non titulaire. Oussama Aouar, et après, je ne sais pas. Très franchement, je ne sais pas.
Moussa Dembélé?
Je ne pense pas.
Il est jeune, 20 buts avec Lyon.
Il est jeune, c'est un bon joueur, mais il va falloir qu'il y aura des progrès à faire. C'est un poste qui est compliqué, c'est un poste d'avant-centre, où tu as besoin de confiance, où tu as besoin de plus de qualité. Pour l'instant, je le vois assez opportuniste et relativement bon avec l'Olympique Lyonnais, mais est-ce qu'il sera capable de passer ce palier entre l'équipe de France Espoir et l'équipe de France A? Je ne sais pas.
Donc tu es en train de nous dire que finalement on doit être heureux d'avoir deux victoires en deux matchs et que cette équipe de France elle casse pas la baraque.
Il y a pas que ça. Il y a aussi le plan de jeu mis en place par l'entraîneur. Très franchement, cette équipe elle a aucune inspiration et il y a un poste clé qui pour moi est la vraie carence, non pas juste de l'équipe de France Espoir mais aussi de l'équipe de France A et de tout le football français, c'est ce poste de sentinelle où on n'a aucun vrai numéro 6 capable de à la fois bien défendre, à la fois faire le pas en arrière pour se remettre entre ces deux centraux et quasiment être le troisième défenseur central, et à la fois assurer une bonne qualité de première relance. Lucas Touzard, il est très gentil, c'est certainement un garçon très sympathique, ne pense pas qu'il a les qualités pour être un très bon joueur, ne serait-ce que de Ligue 1. Et là, il est capitaine de cette équipe. Alors certes, il a ce rôle de sentinelle, mais quand on voit ses premières passes vers l'avant, on a de quoi être un petit peu inquiet. Et quand on regarde quelle individualité nous avons en équipe de France A, on n'a aucun joueur de ce profil-là en équipe de France A. À part Steven Nzonzi, on n'a pas de vrai numéro 6. Et tu regardes encore plus, tu descends toutes les catégories de jeunes de l'équipe de France, on a une vraie carence en termes de formation à ce poste-là.
Le problème, il est aussi par rapport à cette équipe. Lucas Touzard, ok, pareil, à Lyon, moi, je remets souvent en question ses titularisations, parce que c'est un garçon qui est censé t'apporter surtout sur le plan défensif. Il doit venir te grignoter des ballons. Il court toujours à côté de l'adversaire, il va jamais chercher le ballon dans les pieds. Sur les premières relances, il prend rarement la décision de jouer vertical. Il assure ses passes naturellement, il revient, il redonne, il redouble avec son central. Donc ça prend jamais énormément de risques. Dans ces cas-là, si tu domines cette équipe croate, à la limite, laisse Oussama Aouar, parce que tu vas avoir besoin de créativité pour perturber cette défense. Si c'est pour avoir le profil de Lucas Touzard et gratter aucun ballon, ça a aucun sens.
Juste les gars, je vous demande, est-ce que vous êtes capable de me citer un bon numéro 6 dans n'importe quelle catégorie d'équipe de France? Un vrai pur numéro 6.
Ah, pur numéro 6, j'en ai pas, parce que je pourrais dire Adrien Rabiot, mais c'est pas un pur numéro 6, c'est une
Ça pourrait l'être,
moi c'est de son niveau en France, je vois pas mieux, mais il a pas envie de jouer là.
À part Nzonzi.
Oui, je trouve qu'un Rabiot est meilleur.
Bien sûr, oui, on n'en a pas. Et vous ne trouvez pas qu'il y a un problème de formation dans ce poste-là? Parce que j'ai l'impression que la formation française n'a pas encore compris la réinterprétation de ce rôle-là. Avant, ce profil-là, c'était Alou Diarra, un mec grand costaud devant la défense qui mettait des boîtes et qui faisait des passes à 2 mètres. Mais là, le football a évolué. On a besoin d'un mec qui soit capable de faire ça, mais aussi à la fois d'avoir jeu long, jeu court. Et on n'a pas réussi encore à former ce type de joueur. Je trouve ça assez inquiétant.
Il faut jouer sans sentinelle, tout simplement. C'est que des fois t'as des générations, t'as pas le joueur adéquat idoine pour jouer à ce poste là tu joues pas avec une sentinelle.
Au début, souvenez-vous, c'était N'Golo Kanté, et puis au dessus Matuidi et Pogba, et au final Matuidi est exilé sur le côté gauche
dans les positions. Malang Sarr, il est très bien dans l'axe, mais tu vas pas le faire jouer arrière gauche, sans déconner. T'as vu jouer Malang Sarr arrière gauche, même quand il était à Nice, quand il a dépanné?
Je
il est dans l'axe, il est très bien.
Il l'a fait pour dépanner,
mais sur le côté, c'est pas du tout, c'est pas les qualités. Dagba, c'est suffisant. Il a des qualités, ce garçon. Hein. Il a beaucoup de qualités, mais je l'ai pas vu monter assez. Je l'ai pas vu apporter le
surnom. Et dans un match comme ça, les latéraux, ils ont évidemment.
Alors après,
le but, il vient comment?
Ouais. C'est un ballon sur le côté, hein. Avec le centre de Reine Adelaide, le but on devrait lui donner tellement le centre est beau. Mais après, si on veut noter les points positifs de ce match-là, Ncham très bien, à l'image de ce qu'il fait aux Celtics, des prestations qu'il a fournies en Ligue des Champions avec son équipe. En Ligue des Champions, très franchement, on l'avait vu deux trois fois, elle avait été très bon, notamment contre le Paris Saint-Germain. C'est un vrai bon joueur, je pense qu'il a de l'avenir. J'ai trouvé Reine Adelaide assez intéressant, même si parfois un petit peu brouillon dans ses placements. Le but de l'équipe de France, je pense qu'on peut le, enfin il voilà, c'est la moitié, c'est lui le centre, il est prêt.
Le timing de Moussa Dembélé aussi, est assez aussi incroyable. Il arrive à mettre des buts très difficiles et rater des buts très simples.
C'est ça qui est encore là où est sa marge de progression, plus ses déplacements.
Bien justement, dans quelques instants, on va aussi revenir sur la non-titularisation d'Oussem Aouar. Vous allez me dire si Sylvain Ripoll s'est trompé. Mais Amaury, supporter de Lyon, non, pas la pub, les copains. Amaury, supporter de Lyon, veut nous parler justement de Moussa Dembélé. Salut, Amaury.
Bonsoir, Lycée. Salut, bonsoir, Ludo.
Salut, Amaury.
Bonsoir, Jonathan.
Eh bien, bienvenue dans l'after et dis-nous ce que tu as pensé, toi, le supporter lyonnais de ton attaquant.
Dembélé, c'est ce que vous venez de dire. Il peut réussir des choses très difficiles. Il a fait un peu comme ce qu'il avait fait au derby, où il loupe une tête dans deux minutes, une tête hyper facile, et il met le but de la victoire sur une tête beaucoup plus dure. Mais oui, c'est vrai que c'est une de ses marges de progression. Mais pour revenir au bleu en général, c'est un peu ça. C'est le problème, c'est qu'il y a... Il y a un manque collectif criant. Et le problème, c'est que vu qu'on n'a pas formé des joueurs avec une intelligence de jeu suffisante, ils doivent, sans un coach pour les inscrire dans un projet de jeu cohérent, ils essayent individuellement. On va voir un joueur par-ci, un joueur par-là, un peu comme ils tenaient au premier match. Mais il n'y aura jamais de vraie progression des joueurs. C'est pour ça que je comprends quand Jonathan il dit qu'ils n'ont pas forcément le niveau beaucoup pour aller plus loin. S'ils ne partent pas à l'étranger, s'ils n'ont pas d'autres coachs. Mais là, l'équipe espoir, je la vois pas avancer très loin, même contre la Roumanie, là, avec ce jeu-là.
Amaury, le plan de jeu de cette équipe de France espoir mis en place par Sylvain Ripoll, très franchement, je te rejoins. Enfin, on va le dire d'une manière plus crue, mais il est horrible. C'est horrible.
Ça me rappelle Lyon un peu. Ça me rappelle Lyon cette saison.
Je pense que c'est pire.
Ouais, possible.
Parce que on comprend pas vraiment ce qui est mis en place. Il y a des changements qui sont incompréhensibles. Alors je veux bien que, par exemple, on va en parler après, mais Oussem Aouar ait pas fait un bon match. Le premier match Oussem Aouar n'était pas bon. Mais pourquoi le sortir du 11 quand tu vois comment l'équipe de France s'était organisée ce soir? C'était dur à comprendre.
Gardez les billes sur le système, Rennes sur la façon
quasiment
de jouer.
Deuxième attaquant.
Et on écoutera Sylvain Ripoll également dans quelques instants dans l'after. Restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. Amaury, reste avec nous aussi si tu veux nous parler d'Oussem Aouar, qui était donc remplaçant ce soir. C'était la surprise du sélectionneur. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h25, l'after jusqu'à minuit avec Ludovico Bragnac, avec Jonathan McCarty. Et avec un match de CAN actuellement, c'est l'ouverture de la CAN 2019 et cette rencontre entre l'Égypte et le Zimbabwe. Dans quelques instants, on va revenir évidemment sur la performance et la victoire 1-0 des Bleuets face à la Croatie ce soir. Clément Brossard, on en est où? Toujours l'Égypte devant?
66e minute de jeu, en effet, l'Égypte devant 1-0, l'Égypte qui a largement dominé cette première période, mais qui vit une seconde période bien plus accrochée, des guerriers du Zimbabwe qui ont pris un peu du poil de la bête et qui se ruent souvent vers les buts de Mohamed El Shenawy, gardien égyptien qui n'a pas l'air très serein, hein, notamment avec de nombreuses relances approximatives. Les Égyptiens qui sont là en phase d'attaque avec Mohamed Salah dans la surface de réparation et la parade encore une fois d'Edmor Sibanda. C'est vraiment lui le héros du Zimbabwe ce soir, le gardien des guerriers qui a réalisé de nombreuses parades en première période et qui encore une fois à l'instant s'illustre devant Mohamed Salah. Il était parfaitement décalé, l'attaquant de Liverpool, et son face à face est manqué, remporté donc par le gardien du Zimbabwe. L'Égypte qui devrait ou du moins aurait la bonne idée de marquer un second but parce qu'ils se sont montrés un peu friables derrière et en danger forcément face à une équipe du Zimbabwe qui joue son va-tout et qui aimerait à tout prix faire tomber le pays hôte dès ce soir. Le corner qui file derrière le but de Edmor Sibanda. 67e minute de jeu, l'Égypte mène 1-0 face au Zimbabwe.
Revenons à nos bleus donc qui sont Papy Bros. Super, Jonathan McCarty. Et toi qui te moquais à l'instant de Ludovico Bragna, qui
parce qu'il a dit un tiers Brossard, c'était nul.
Ouais. Très bien.
Okay. Enchaîne, vite.
Non, je trouve ça bien ce moment de gêne.
Ne nous laisse pas nous noyer comme
non, je trouve que c'est
si
très bien.
Si c'était Jean-Louis Tour, Jean-Louis Tour dirait ok, excellent. Il passerait autre chose.
C'est vrai, mais je suis pas Jean-Louis Tour. Mais ok, excellent. Alors passons au bleuet donc et on continue de débriefer cette rencontre et cette victoire. Donc 1-0, victoire poussive, but de Moussa Dembélé. Il y a quelques instants, vous étiez en train de vous interroger sur le système mis en place par Sylvain Ripoll. Vous lui avez mis d'ailleurs quelques tirs. Bah, justement, je vous propose d'écouter Sylvain Ripoll, le sélectionneur des Bleus, et vous allez voir, il ripolle pas beaucoup.
On n'a pas fait le match qu'on souhaitait. On n'a surtout pas su résoudre ce problème que nous ont posé les Croates. On les avait vus très haut sur le terrain contre la Roumanie, même si l'évolution du score de bonheur contre eux avait certainement modifié les choses. Mais voilà, ils nous ont proposé quelque chose complètement inverse, avec un bloc de 10 joueurs regroupés quasiment dans leurs 35 mètres. Et on n'a pas su trouver ni l'accélération, ni la façon de les étirer. Voilà, une circulation trop lente, peut-être pas assez de mobilité non plus. C'est un match où on était entre deux. Et souvent, dans ces matchs entre deux, on peut se faire punir. Et puis, c'est des matchs qui sont difficiles à maîtriser.
Mais circonstances atténuantes quand même pour cette équipe de France. C'est vrai que la Croatie n'a pas beaucoup joué durant une heure.
Mais c'est pas ça. Tu dois pas. Enfin, je sais pas. Alors, soi-disant, on a une génération de cadors, donc on doit pas se fier à ce que propose l'adversaire en face, qui est relativement faible. Moi, la seule chose qui m'interroge, c'est quand je vois la composition d'équipe qui est alignée, quand je vois le profil des joueurs qui sont alignés, notamment au milieu de terrain avec Encham et Ren Adelaide, qui sont plutôt des joueurs de percussion. T'as aucun joueur capable de créer quelque chose dans cette équipe-là au final. T'as que des joueurs qui ont un petit peu le même profil. Ils sont très vifs, mais il n'a pas commencé le match.
C'est une erreur de ne pas l'avoir fait.
Mais c'est le seul joueur dans ton effectif qui est capable de créer.
Là, mais si il est moins bien, est-ce que tu le laisses forcément parce que c'est le seul?
C'est une question de profil. Moi, je pense vraiment que c'est une question de profil. Il a loupé son entrée dans la compétition. Ça peut arriver. Et franchement, quand tu regardes le profil des joueurs qui sont alignés au milieu de terrain, Ren Adeleye et Encham, je suis désolé, ça manque de diversité, ça manque de variation dans le jeu.
Ok, mais c'est
un jeu qui est ultra stéréotypé.
C'est quand même dur aussi de tomber sur Sylvain Ripoll concernant Oussem Aouar. À mon avis, parce que Oussem Aouar, il a vécu quand même une saison très compliquée avec Lyon. Non,
mais pourquoi tu dis ça, JC?
De quoi?
Très compliqué? T'exagères pas un peu?
Le Oussem Aouar d'il y a 2 ans était meilleur.
Il a eu une saison où il a dû confirmer son excellente saison de l'année d'auparavant. Il a été un petit peu moins régulier, mais j'ai trouvé.
Il s'est blessé, il s'est quand même retrouvé sur le banc.
Il s'est blessé, il a eu une crise de croissance, mais ça restait un joueur qui a fait une saison plus que correcte avec Lyon et qui a montré par moments qu'il avait un potentiel qui était largement supérieur à la moyenne.
Peu importe la configuration du match, il t'explique qu'il s'attendait à ce que les Croates viennent les chercher haut et les pressent.
Exactement.
Donc, excusez-moi du peu, mais quand tu veux échapper à un pressing, je suis pas sûr que Lucas Touzard, en tant que sentinelle, ce soit le meilleur moyen de ressortir les ballons. Il a certes eu des défauts cette année, le petit Aouar, mais s'il a bien une qualité qu'il faut lui reconnaître, c'est que dès qu'il prend le ballon, il éclaircit le jeu, tu vois. Il sait trouver les solutions, il joue simple, il sait bien se déplacer. C'est un garçon qui sent le jeu. Là, en l'occurrence, partons du principe qu'on fasse jouer ce milieu de terrain-là, à la mi-temps ou même peut-être avant, quand tu vois que la Croatie est basse et que t'as besoin justement d'un créateur pour pouvoir trouver des solutions, parce que face à une défense regroupée, il va falloir user d'ingéniosité, vois. Donc là, ça n'a pas été le cas.
Regarde les joueurs qui ont été alignés.
Je pense que c'est une erreur. Après, je veux pas tirer à boulet rouge sur Ripoll, dans le sens où, tu vois, je reviens à cette interview de Sarri qui te dit que mais pourquoi ce jeu si flamboyant à Naples, au Napoli, vous l'avez pas réussi à le remettre en place à Chelsea. Il t'explique que bon, à Naples, j'avais des joueurs qui jouaient une touche, deux touches, du mouvement, de la fluidité, de la rapidité dans la passe. Alors que à Chelsea, j'avais plus des joueurs aux caractéristiques un peu plus individuelles devant, d'élimination. Donc du coup, j'ai eu du mal à trouver les ressorts nécessaires pour pouvoir fluidifier le jeu. Là, c'est un peu pareil. T'as des intermittents du spectacle qui sont capables de en un contre un de faire très mal. Entre Ren Adelaide, Marcus Thuram, Ikoné et toute la clique,
dès qu'ils prennent le ballon,
ils peuvent éliminer en un contre un. Non, mais... Donc c'est normal, mais il faut qu'ils arrivent à trouver justement une bonne fluidité en jouant parfois. Il faut savoir gérer les temps forts et les temps faibles.
Mais il faut qu'il y ait un joueur qui soit capable de mettre le pied sur le ballon. Et ouais. quand tu regardes Ikoné, ouais. Bamba, Thuram, Ren Adelaide et même Ncham, c'est des joueurs qui sont très forts dans la percussion. Oui, ok. Mais il a joué le match précédent, mais c'est des joueurs qui sont très forts dans la percussion, qui sont très forts dans le 1 contre 1, qui ont une belle capacité de dribble, mais il n'y en a aucun qui a l'intelligence de jeu pour mettre le pied sur le ballon, temporiser, comme Ludo l'a dit.
Et dans ce cas-là, je préfère même Guendouzi, tu vois.
Exactement.
Au moins, il a ce profil, lui, où il sait se projeter, il sait percuter.
Il a un peu le même profil qu'Ncham d'un côté, Guendouzi.
Mais et qui est entré en fin de match, d'ailleurs, Guendouzi. Amaury, supporter de Lyon, est toujours avec nous. Amaury, est-ce que tu as compris, ou alors pas du tout, la non-titularisation d'Oussem Aouar ce soir?
Si, ça pouvait se comprendre, parce que c'est vrai que il a, même si je trouve qu'on a un peu exagéré son mauvais match, et c'est vrai qu'il était pas, il avait pas fait un bon match sur le premier, sur
ils le premier été, Euro, ils mais ont pas été beaucoup
après. Il y en a un qui a été bon et ça a été magnifié par son penalty loupé. Excuse-moi, je t'ai coupé, Amaury.
Oui, non, parce que je pense qu'il pouvait, oui, si, ça pouvait se comprendre, parce qu'il a pas fait un bon match non plus. Après, vu ce qu'on met à la place, est-ce que c'est vraiment judicieux? C'est pour laisser Touzard, par exemple, qui a été aussi catastrophique sur le premier match. Oui, enfin, ça pouvait se comprendre qu'on fasse tourner Aouar, mais il n'y a pas que lui, quoi. Et je trouve que c'est un peu un... Ça signifie un peu la mentalité qu'il avait sur ce match, Ripoll. Et aussi partir du principe que parce que l'équipe joue bas, tu puisses pas faire le jeu, ça c'est très français, et considérer que dès que l'équipe joue bas en face, c'est normal que tu butes et que tu as zéro solution. C'est assez dommage.
Bon, merci beaucoup en tout cas à Maury d'avoir composé le 32-16. À bientôt dans l'after, évidemment. Vas-y, on t'écoute.
C'était pour encourager l'équipe du Burundi pour le match de demain contre le Nigeria.
Et bien voilà.
Le premier match de la CAN.
Eh bien, allez le Burundi, tu as bien raison de le préciser. Et on suivra ça. La CAN, c'est à suivre évidemment sur RMC. On sera là pour tous les matchs. Merci beaucoup à Maury. Et à bientôt sur RMC dans l'after. N'hésite jamais, on est là tous les soirs. Au 32-16, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on va clore cette page équipe de France, les Bleuets. On a dit beaucoup de choses, beaucoup de négatifs évidemment au vu de la prestation, mais il ne faut pas oublier que les Bleus sont en position idéale pour se qualifier pour les demi-finales. Est-ce que vous avez bien compris les modalités de cet Euro Espoir? Sinon, je les rappelle. Ok, il y a trois groupes de quatre. Les trois premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales. Donc ça fait trois équipes pour les demi-finales. Mais vous avez bien compris, pour les demi-finales, il en faut quatre. Donc, le meilleur deuxième par rapport à ces trois groupes sera automatiquement qualifié pour les demi-finales.
Si tu as 7 points, autant dire que tu es quasi qualifié.
La Roumanie a 6 points, la France a 6 points. Et ça tombe bien, lundi soir, les deux équipes s'affrontent. En cas de match nul, ça ferait 7 points. Et je peux vous l'annoncer par rapport aux autres groupes. Aucun meilleur deuxième des autres groupes n'aura 7 points. Donc les Bleus seront qualifiés. Mais attention, ce n'est pas... C'est pas mal, hein? Bah, j'ai bien révisé aussi.
Mon micro est éteint, mais c'est vrai.
Pour les avoir regardé un peu, j'ai pas l'impression que les Roumains ils ont envie de jouer le match nul. Hein.
Non, je crois qu'ils accepteront pas le match nul. C'est vrai que victoire 4 buts à 1 face à la Croatie, 4 buts à 2, très spectaculaire les 20 dernières minutes face à l'Angleterre. Et Paul Bernard Denis, le gardien de Nîmes, gardien de cette équipe de France Espoir, on l'a retrouvé il y a quelques instants au micro de Loïc Tanzi et il nous parle évidemment de cette finale.
On a ce dernier match contre la Roumanie qui pour la première place hein, tout simplement, donc on retient la victoire. Alors oui, ça a été dur, mais voilà, on a joué il y a deux jours, donc je pense qu'il y avait un petit peu de fatigue. On a aussi fait des erreurs techniques, donc ça faut pas l'enlever, donc c'est des choses à corriger, mais honnêtement comme j'ai dit dans le vestiaire, hein, si on gagne tout 1-0 et qu'on va en finale comme ça, même en jouant mal, on s'en fout, hein. Enfin, le principal c'est de prendre des points, c'est d'aller le plus loin possible dans cette compétition. Et bon voilà, après c'est sûr, certains il y a des choses à changer, mais je reste quand même persuadé qu'il y a peut-être deux mois de ça, ce match-là, on se faisait soit revenir au score ou même on le perdait. Donc là, je pense que c'est de bon augure entre ce qui s'est passé contre l'Angleterre et là, on n'a pas lâché défensivement, on a été costaud et offensivement, on a su être altruiste. Donc c'est bien.
Et oui, si les Bleuets étaient en progression, voilà, il y a deux ou trois mois, ils n'auraient peut-être pas tenu le score. Là, eh bien, ils ont réussi avec un peu de réussite et ce poteau dans les dernières minutes de la Croatie. Mais donc cette victoire 1-0 et donc le prochain match France-Roumanie, ce sera lundi soir.
Un dernier petit truc, très franchement. Quand on regarde les générations qu'on a en U17, en U20 ou en Espoir, on a quand même des joueurs qui ont un potentiel intéressant. Après, quand on regarde les entraîneurs qui sont à la tête de ces équipes-là, Gonfalon, Diomed ou Ripoll, je sais pas si c'est vraiment au niveau du talent des joueurs qu'on peut avoir. Je veux pas casser du sucre sur leur dos gratuitement, mais je me demande si par rapport à d'autres pays où c'est beaucoup plus structuré, où par exemple le sélectionneur de l'équipe A chapote un petit peu tout, met ses hommes pour qu'il y ait une continuité, nous on l'a pas. Et je pense qu'on va être amené plus ou moins sur le moyen terme à mettre en place quelque chose d'un peu plus structuré, d'un peu plus cohérent pour mieux organiser les équipes de jeunes avec l'équipe de France A.
Ok, voilà, c'est dit, et tu viens clore ce chapitre. On reparlera, si tu veux, des sélectionneurs des équipes de France. Non, pas du tout, mais c'est un débat que l'on peut avoir, mais que nous n'aurons pas maintenant, car dans quelques instants, nous allons parler de l'équipe de France féminine à 48 heures de la rencontre de l'affiche de ces huitièmes de finale entre la France et le Brésil. Le point également sur le mercato, mais nous allons repartir au Caire pour ce match entre l'Égypte et le Zimbabwe. Rassure-moi, le gardien zimbabwéen n'a pas de crampe, j'aime pour ça.
Non, il a été touché, Edmore Sibanda. 78e minute de jeu, l'Égypte qui mène toujours 1-0 face au Zimbabwe. Et le héros de cette soirée, même s'il y a défaite du Zimbabwe pour l'instant, c'est bien lui, le gardien des guerriers, Edmore Sibanda, donc qui a réalisé de nombreuses parades et qui a repoussé l'échéance.
Il va être remplacé, hein.
De Mahmoud Trezeguet à la 41e. En effet, il va être remplacé. Sibanda, ça fait déjà 3 ou 4 fois quand même que les soigneurs viennent à sa rescousse, touché d'abord à la cheville, puis ensuite à la cuisse, puis au poignet en début de partie. Et là, je crois que c'est la cheville ou le genou cette fois qui ne tient plus vraiment pour Edmore Sibanda, qui va donc céder sa place. C'est certainement Elvis Chipezeze, le gardien remplaçant du Zimbabwe, qui va rentrer et reprendre la place d'Edmore Sibanda. 1-0 pour l'Egypte. L'Egypte qui connaît un match moins tranquille que prévu, souhaité par une équipe du Zimbabwe ambitieuse et qui par des contres met en danger cette défense égyptienne. Ouais, c'est bien un coup, hein. Là on revoit, j'ai devant moi le ralenti, un coup entre l'attaquant égyptien, il me semble que c'est Walid Soliman, et donc Edmore Sibanda. 10 minutes, un peu plus de 10 minutes à jouer. Le gardien donc des guerriers qui cède sa place, et l'Egypte qui mène pour l'instant 1-0 dans ce match d'ouverture de la 32e CAN. 1-0 donc face au Zimbabwe.
Ouais, malheur pour ce gardien. Et je ne sais pas si vous connaissez l'anecdote, mais son frère a joué en Europe, hein, le frère de ce gardien du Zimbabwe. Qu'est-ce qu'il y a?
Je sais pas ce que tu veux dire.
Attends, j'étais hyper sérieux. Non, son frère s'appelait Pascal. Je ne sais pas si vous l'avez connu, Pascal Sibrouda.
J'avais donc raison de...
Ok, je vais donc laisser passer ce moment de gêne également, faire comme donc notre ami Jean-Louis Tour. Ok, excellent. Ok, bon, bah passons à la pub, et dans quelques instants, les féminines et l'actualité du mercato. A tout de suite sur RMC.
RMC, l'afterfoot, Jean-Christophe Drouet.
23h42, c'est la dernière ligne droite de l'after, ensemble jusqu'à minuit avec Jonathan McCarty, Ludovic Obraniak, et ce premier match de CAN, ouverture entre l'Égypte et le Zimbabwe. Clément Brossard, il reste quelques minutes à jouer.
Il reste 7 minutes à jouer exactement dans le temps réglementaire. L'Égypte qui mène toujours 1-0 face au Zimbabwe grâce à Mahmoud Trezeguet à la 41e minute. Les Égyptiens qui auront remis le pied sur le ballon, mais qui seraient bien inspirés d'inscrire un second but pour ne pas se faire punir. Et le Zimbabwe qui pourrait donc peut-être créer la surprise et venir égaliser face au pays hôte. Encore 7 minutes à jouer. L'Égypte 1, Zimbabwe 0.
Ouais, merci beaucoup Clément. On revient d'ici la fin de la rencontre. Sur ce match
de pronos, ouais.
J'ai mis 2-0 pour les
gens. Ouais, moi 3, ouais. On est mal barré là.
Ouais, oh, bah le 2-0, c'est pas mal.
Ouais.
Le 3, à mon avis, tu vas devoir un petit peu pédaler. Ouais. On a fait un petit concours dans la rédac. RMC, voilà, sur cette CAN 2019. Avant de passer au mercato, sur toute l'actualité du jour, je voudrais que l'on dise un mot sur cette équipe de France féminine. Dans 48 heures, le match face au Brésil, l'affiche évidemment de ces huitièmes de finale, ça va se passer au Havre. Et aujourd'hui, il y avait un point presse, avec notamment Judy Le Sommer, et qui était devant les médias, et elle a parlé de cette affiche France-Brésil, qui fait rêver chez les hommes, évidemment, mais chez les femmes, c'est une très belle affiche aussi. Eugénie Le Sommer.
C'est vrai que les deux équipes se ressemblent un petit peu, que ce soit les garçons ou les filles. C'est une équipe qui est performante, qui a des joueuses de talent. Après, je ne sais pas s'il faut s'attendre à avoir des gestes techniques. Elles sont aussi efficaces dans ce qu'elles font. Voilà, le Brésil, c'est une arme offensive et avec parfois des gestes qui peuvent être spectaculaires, mais le plus important dans le foot, c'est de gagner des matchs.
Et le problème du Brésil, c'est que cette équipe est assez faible défensivement. Heureusement pour cette équipe de France, jouer le Brésil en huitième de finale. Évidemment, le Brésil qui n'a pas fait un parcours pour l'instant très bon, hein, troisième de sa poule. Vous le voyez comment ce match et vous attendez quoi des Françaises surtout? Parce que c'est vrai que les trois premiers matchs, il y a eu ces victoires, mais on a été un petit peu déçus.
Il y a eu sur les six mi-temps, il y a eu une bonne mi-temps, la première mi-temps contre la Corée. On peut dire ça comme ça. On attend une chose, je pense que Ludo sera d'accord avec moi, c'est que offensivement, ce sera un petit peu mieux organisé, que Gaëtan Tinel arrive un petit peu mieux à trouver son avant-centre, que le Sommer soit un petit peu moins perdu sur son côté, et que d'une manière générale, l'animation offensive, il y a des progrès, il faut changer quelque chose. On sait pas exactement ce que Corinne Diacre va faire, mais il y a quelque chose à changer si tu veux aller plus loin dans cette compétition-là.
Ludo?
Non, bah enfin, on rentre dans le vif du sujet. Les filles ont eu des matchs qui étaient largement à leur portée jusqu'à maintenant. Elles l'ont réalisé. Après, on peut dire que oui, effectivement, la qualité n'était pas au rendez-vous. Quoique sur la Norvège, j'ai trouvé que le match était intéressant à suivre en termes d'intensité. Certes, moi, je pointe aussi quelques problèmes offensifs. Bon, alors ça tombe bien, le Brésil, ils sont plutôt faibles défensivement. Donc du coup, on devrait réussir à s'en sortir. Mais c'est un vrai match test. Le Brésil, c'est quand même une référence dans le football féminin. C'est sûr qu'elles font une phase de poule qui est pas... On n'a pas été convaincu non plus par les Brésiliennes. Elles se sont fait surprendre par les Australiennes rapidement.
Bon, elles ont gagné deux matchs. Du coup,
la confiance est de notre côté, d'autant qu'on reçoit à domicile. Donc voilà, c'est l'occasion de faire monter la sauce et puis déjà que tout le monde est derrière cette équipe. Si tu étais amené à battre le Brésil, tu te mets dans la peau du vrai favori. Et même si pour l'instant, moi, au vu de la compétition, c'est les Américaines. Mais du coup, cette équipe, elle est aussi capable il lui faut un match justement pour passer à la vitesse. Passer à la vitesse supérieure. Tu vois, voilà, on est rentré dans le tournoi. Bon, il y avait des équipes qui étaient à leur portée, je vais pas dire facile, mais là voilà, là t'as un vrai adversaire. Si tu bats cet adversaire là, tu vas être gonflé au niveau de la confiance pour pouvoir continuer la compétition. Ouais. Et c'est un vrai match piège parce que t'as presque dit si elle gagne pas là, la Coupe du Monde elle s'arrête presque, hein, parce que si nos Françaises elles sont plus dans la compétition, ça va être difficile de suivre, hein, comme.
Ouais, exactement, ça va être difficile de
elles
de
sont faire lourdes, et elles ont aussi un peu de pression tomber, elles ouais. ont une lourde responsabilité sur leurs épaules.
Je voulais juste savoir, petite question qui n'a rien à voir, mais t'as déjà reçu à l'extérieur toi ou pas?
J'ai jamais reçu à l'extérieur. Non,
non, parce que tu disais que les Bleus recevaient à domicile.
Mais on est Ludo, il est partout chez lui. Même quand il est à l'extérieur, il reçoit. Voyons, attends un peu.
Mais je voulais
il est pas de Paris, mais quand attendez. Il t'invite, il te reçoit.
Attendez, il est 23h47. J'ai bouffé un France-Croatie immonde. Alors j'ai le droit de venir taquiner un ami, Ludovic Obraniak, évidemment. Je vous donne les affiches de ces huitièmes de finale.
Si c'est un ami, ça va.
Et ça commence. Enfin, j'espère. On est proches. Enfin,
on est collègues. On peut dire ça. Il y a une certaine proximité.
Okay. On est collègues de travail, j'ai bien compris, Ludo. Les huitièmes de finale, je vous les donne. Ça commence demain à partir de 17h30 avec Allemagne-Nigeria. Ensuite, à 21h, Norvège-Australie. D'ailleurs, on sera là dans le RMC Sport Show à partir de 20h. Le dimanche, à 17h30, Angleterre-Cameroun. À 21h, évidemment, France-Brésil. Le lundi 24 juin, Espagne-États-Unis. À 18h, suivi de cette rencontre entre la Suède et le Canada. Et puis pour la dernière journée des huitièmes de finale, Italie-Chine. Et à 21h, Pays-Bas-Japon. Vous remarquerez qu'il y a 8 équipes européennes qualifiées. Mais ces 8 équipes ne s'affrontent jamais. Ouais. Voilà. Entre elles, en tout cas, pour l'instant, c'est une singularité de ces huitièmes de finale. Et je voulais vous faire profiter de cette anecdote savoureuse.
Merci,
voilà ce que l'on pouvait vous dire sur cette équipe de France. On prendra des nouvelles demain, évidemment, en direct du Havre, à J-1 de France-Brésil. Merci, des informations Mercato, ça vous branche maintenant?
Oui. Allez.
Avant le Mercato tout de même, parce que je sais que Jonathan, tu voulais en parler. Ça ne concerne pas directement le mercato, quoique c'est l'attaquant espagnol, la légende, Fernando Torres, qui met un terme à sa carrière à 37 ans. Il l'a indiqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux. 35 ans pour Fernando Torres. C'est à toi, Jonathan.
Ben non, mais c'est juste qu'il fallait le noter, lui rendre hommage. Ça a été un des joueurs qu'on a adoré voir sur les 10-12 dernières années. On se rappelle, hein, quand il débarque en sélection espagnole, là, le petit dragster devant de l'Atlético Madrid. Il a réussi à l'Atlético, il a marqué l'histoire de ce club-là, il a marqué l'histoire de Liverpool. On se rappelle rappelle, même à Chelsea où ça a été compliqué l'année où il gagne la Ligue des Champions et met un but super important en demi-finale contre le Barça, là, la demi-finale retour, c'est lui qui égalise et qui élimine le Barça lui tout seul avant que Chelsea ne gagne cette Ligue des Champions de cette année un peu spéciale. Il revient à l'Atlético, il est performant. Écoute, ça a été un des joueurs, je pense que tout le monde l'a adoré, Fernando Torres. Donc voilà, chapeau à lui et puis bon vent. Hein.
Exactement, chapeau à Fernando Torres. Tu l'as déjà croisé sur un terrain ou pas, Ludo? Avec la Pologne
oui,
ou
je l'ai croisé, on a joué, oui, en huitième ou quart de finale de Ligue Europa avec Lille, ouais. On avait joué contre Liverpool, il était là. Et c'est un, forcément, c'est un. Moi, j'ai frappé par à l'époque quand je regardais les matchs de l'Atlético quand j'étais plus jeune, frappé par le fait qu'un si jeune garçon puisse porter un club comme ça, ouais. Avoir une telle maturité, avoir le public était acquis à sa cause, quoi. C'était vraiment l'enfant du club, c'était fantastique. Après j'ai beaucoup aimé le Torres de Liverpool, ah, et ouais. Puis après il s'est un peu perdu à Chelsea et ailleurs, mais c'est vrai que ça
c'est pas mal quand il revient à l'Atlético quand même.
Ouais, bon, il...
Pour la symbolique.
C'est quand même bon.
Oui.
Il
n'était
jamais simple. Tu le sais, en plus, il a su quand même, lui qui est l'enfant là-bas, qui est... Il a dû se mettre derrière un peu certains qui étaient plus mis en avant que lui.
Simeone, en
fait. Voilà. Donc un garçon brillant, un peu renfermé. Enfin, je sais pas, il avait l'air
Gilbert Brébois aurait dit Sandrine Kiberlin.
Ouais.
D'accord. Ouais, ouais.
Gilbert dit que c'est le sosie officiel de Sandrine Kiberlin.
Ouais, j'avais jamais noté, mais pourquoi pas. Pourquoi
écoute,
pas.
Respecte le patron.
Oui, non, mais j'adore. En plus, j'ai tous ces disques, Gilbert Bribois. Je parlais de légende, et ce mot n'est pas forcément galvaudé, parce que il rentre dans le cercle très fermé des joueurs qui ont remporté l'Euro, la Coupe du Monde, la Ligue Europa, la Ligue des Champions. Ouais.
Donc là,
magnifique, hein. Et troisième du Ballon d'Or en 2008. Hein.
Oui,
on l'oublie aussi, troisième du Ballon d'Or. En tout cas, bravo.
Et l'Euro, voilà. Rappelez-vous.
Bien sûr.
Il était énorme.
Deux fois l'Euro, 2018 et 2012. On souhaite une deuxième magnifique carrière pour Fernando Torres maintenant. L'information.
Et sa femme s'appelle Olala.
D'accord.
Je crois. Ouais.
T'as un vrai problème avec les femmes des autres.
Non, hein, mais pas du tout. C'est le prénom. Ouais. Olala, c'est mignon. Je sais pas, c'est pas commun. C'est pas commun.
Mais arrête de t'occuper de femmes des autres. C'est vrai, il a raison. C'est chiant quand même, à force.
Bah, la chienne.
non, tu vas pas sur ce terrain-là. Merci. Les informations mercato, vous me dites si ça vous intéresse, vous commentez,
vas-y,
vous commentez pas. On va commencer avec le Paris Saint-Germain, qui aurait fait une offre pour Milinkovic-Savic. C'est selon le Corriere dello Sport, le milieu de terrain de la Lazio.
C'est
et le Paris Saint-Germain qui aurait transmis une offre de 45 millions d'euros pour l'international serbe.
Ça fait 3 ans qu'ils sont dessus.
Oui, mais là, avec l'arrivée de Leonardo, on sait que Leonardo apprécie beaucoup ce joueur.
Mais alors, est-ce qu'il est aussi fort que les saisons précédentes? Est-ce qu'il n'a pas fait juste une saison énorme avec la Lazio, cette saison avec
Inzaghi?
Est-ce que là, maintenant, est-ce que les... Bon, je sais pas.
Est-ce que c'est meilleur Simone que Paredes? Oui.
Ça, oui. Mais il faudrait demander à Simone s'il a confirmé la saison magnifique qu'il avait fait l'année où la Lazio finit dans les cinquièmes, je crois. Je demande parce que je l'ai vu 4-5 fois cette saison et franchement... J'ai quelques doutes.
Après, tu vois, hein, quand tu vois ce que ça coûte au milieu de terrain, un bon joueur au milieu de terrain, là, les Alan, 100 millions, ça, tu te dis que finalement, rapport qualité-prix.
C'est pas le même profil en plus.
C'est peut-être pas une si mauvaise affaire. Non, mais
en plus, Milinkovic-Savic, voilà, c'est pas du tout le même profil qu'Alan.
C'est pas le même profil.
D'accord.
Mais c'est pour compléter ton milieu de terrain. Tu joues pas qu'avec
T'en as des joueurs comme ça déjà.
Tu joues pas qu'avec une sentinelle. Il va falloir que tu joues avec des mecs un peu plus haut. Donc si tu joues à 3
mais t'as déjà ce que je veux dire, c'est que t'as déjà ce profil de joueur là.
Oui, mais il te faut
oui, mais il faut une profondeur de banc.
Tu vois là, il faut à un moment donné un effectif qui tient la route, tu l'as
sinon,
bien vu.
Sinon tu joues qu'avec les jeunes. Hein.
Mais je pense que la priorité là, c'est de prendre un mec un peu plus défensif, tu vois, pour faire la paire par exemple avec Marco Verratti.
OK.
Mais s'il vient très bien, hein, ça reste un très beau potentiel.
Parler de Casemiro, ça aurait été une super
acquisition. On continue si vous voulez le feuilleton Neymar, il y a évidemment depuis la boîte de Pandore s'est ouverte, il y en a toujours des rumeurs sur ce transfert de Neymar, pourquoi pas au FC Barcelone. La rumeur du jour, elle concerne le quotidien espagnol Sport qui nous annonce que le Barça aurait proposé 100 millions d'euros et Philippe Coutinho pour avoir Neymar. On prend ou pas 100 millions plus Coutinho?
Non.
Non, hein?
Non.
J'ai l'impression que Ludo prend, lui.
Non, je sais pas, je réfléchis parce que si tu me dis, si je reste sur ce que j'ai vu, bien sûr, c'est un joueur formidable. Après, moi, ça a gavé tout le monde. Les sorties, les blessures, tout ça. Ça fait 2 ans qu'on l'attend pour qu'il fasse passer un cap. Ça fait 2 ans qu'il est pas au rendez-vous.
on a envie de lui laisser la chance sur la troisième année. On a envie de le voir sur cette troisième année. On l'attend tous
avec
au tournant.
Leonardo,
donc moi, ça me chagrinerait qu'il s'en aille.
Bien sûr. Mais moi, ce qui me gaffe, c'est que là, on va commencer avec la presse espagnole qui va commencer, à mettre la pression. Ouais. Franchement, c'est pénible.
C'est pénible. Et pour le coup, qui s'arrange bien avec les informations.
J'espère une seule chose, c'est que Neymar va rester au Paris Saint-Germain et qu'il va faire une très grosse saison parce qu'il le doit à ce club-là. Voilà, c'est tout.
Et puis lui, s'il a aussi un peu d'amour propre, partir comme ça, franchement, il y aura un goût d'inachevé.
Parfait, on se dépêche un petit peu car c'est la fin. C'est terminé entre l'Égypte et le Zimbabwe, Clément Brossard.
Ça y est, le pays hôte qui démarre du bon pied. Victoire 1-0 des Égyptiens face au Zimbabwe. Le but de Mahmoud Trezeguet à la 41e minute devant plus de 70 000 personnes, devant le président égyptien. Donc les pharaons qui s'imposent 1-0. Juste une petite info pour ceux qui suivent la Ligue 1 et le Stade de Reims, sachez que Marshall Munetsi, le joueur du Zimbabwe, milieu du Zimbabwe qui rejoindra le Stade de Reims l'année prochaine, plutôt intéressant au milieu de terrain, l'ex-joueur des Orlando Pirates, donc assez intéressant avec beaucoup de potentiel. La CAN qui démarre donc sur une victoire du pays hôte, l'Egypte, 1-0 face au Zimbabwe, les pharaons qui sont donc bien partis, eux qui sont favoris dans leur propre édition, 1-0 pour l'Egypte face au Zimbabwe ce soir.
Merci beaucoup Clément Brossard. Dans quelques instants, Timothée Mémon nous attend en direct de ce stade magnifique du Caire pour nous parler de l'ambiance. Une autre information à vous donner, c'est Denis Bouanga, le joueur de Nîmes qui intéresse plusieurs clubs de Ligue 1, et selon nos informations, Bouanga est d'accord avec Saint-Etienne.
Très bonne acquis.
Maintenant, il faut se mettre d'accord avec Nîmes, évidemment. Mais l'information RMC, c'est que Saint-Etienne est en pole position. Rennes est également intéressé par ce joueur.
Les gars, juste l'information intéressante, c'est de se dire que Nîmes va perdre Jordan Ferry, peut-être Téji Savagnier, peut-être Denis Bouanga. Ça fait quand même trois grosses pertes. Trois pertes hyper importante pour Nîmes.
Et peut-être une autre, c'est la dernière information que nous allons développer ce soir, c'est Briançon. Justement, tu en parlais, et Flavien T, qui intéresserait l'Olympique de Marseille selon la Provence.
Ah bah, faut demander à Ducros, hein. Faut demander à Pierrot.
Pourquoi ?
Ah bah, Flavien T, c'est son joueur.
Oui, mais toi, tu en penses quoi, le Marseillais ?
J'aime beaucoup Flavien T, c'est un très bon joueur, mais est-ce que...
Arrête,
5 buts, c'est pas décisif.
T'as bien vu...
T'attends quand même quelque chose d'un petit peu mieux, mais j'adore Flavien T.
T'as bien vu, là, ces derniers jours, dans quelle situation tu es.
Oui,
donc, après... est-ce que tu peux avoir mieux que Flavien T ? Non.
Non, mais Ludo, donc, après...
Prends Flavien T et sois content.
Très franchement, c'est un très bon joueur.
Avec le sourire.
C'est un joueur que tu vas prendre et qui a une forte marge de progression. C'est un joueur qui a les capacités d'enflammer le Vélodrome. Et Pierre Ducrot, tu m'envoies ma commission, je t'envoie mon rib.
Très bien, parfait. Et nous allons nous quitter avec Timothée Mémon en direct du Caire pour la fin de match entre l'Égypte et le Zimbabwe. Victoire donc des Pharaons 1-0. Raconte-nous l'ambiance, Timothée.
L'ambiance, elle a été exceptionnelle tout au long de la soirée. J'ai même envie de dire tout au long de l'après-midi, puisque les supporters se sont massés dès 16h aux abords du stade pour entrer petit à petit. L'ambiance est montée au moment de la cérémonie d'ouverture et du petit show. L'ambiance était très bon enfant. Au début de la rencontre également, une vraie belle grosse ambiance africaine comme on a envie d'en découvrir quand on vient couvrir une CAN comme c'est mon cas. Il y avait évidemment tout le gratin qui rôde qui était présent avec notamment le président Al-Sissi qui a été accueilli comme une véritable rockstar au moment de son arrivée. Bref, magnifique cérémonie d'ouverture réussie notamment grâce à la victoire de l'Égypte qui n'a pas porté son talent, mais on est plutôt là pour parler de l'ambiance. Une ambiance franchement géniale, c'est enthousiasmant d'être dans ce genre de salle. On fait ce boulot-là pour être dans ce genre d'ambiance. Et c'est merveilleux de pouvoir vous essayer, en tout cas de vous retranscrire un minimum.
Merci beaucoup Timothée Mémon, et à bientôt évidemment sur RMC. On te retrouve dès demain pour nous parler de cette CAN. Je vous donne d'ailleurs les affiches. Demain à 16h30, le Congo face à l'Ouganda. À 19h, le Nigeria face au Burundi, le petit pousset. Et puis à 22h, la Guinée qui affrontera Madagascar. Autre petit pousset. On va suivre attentivement cette CAN 2019. Passez une très très belle nuit à l'écoute d'RMC. Merci beaucoup Jonathan.
Merci JC.
Ludo, merci.
Bonne nuit tout le monde.
On se retrouve évidemment demain sur RMC en très bonne forme. Oui.
Il reste des places pour le Zénith, pour l'ami Cédric Doumbé qui défend sa ceinture des poids welter au Glory. Donc c'est au Zénith, ça sera en direct sur RMC Sport 4. Le champion du monde en kickboxing dans la meilleure organisation au Glory, des poids welter, allez le voir, c'est au Zénith.
Parfait, l'information est donnée et j'ai une dernière information à vous donner. Sachez que Moussa Dembélé s'est blessé à la cheville lors de ce match ce soir face à la Croatie. Victoire 1-0, c'est pour ça qu'il a fini le match un petit peu handicapé. Passez une très belle nuit, on vous embrasse très fort. Salut.
RMC, l'After Foot.